foutage.
Quand on a commencé, il y avait deux chaînes.
Brisé.
Mais c'est pas intéressant pour ces idées-là. Elle est à 20h.
Martyrisé.
Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient.
Quelque chose qui ne devrait pas être dit.
Maintenant, il y en a des centaines.
Peut encore être dit.
Mais libéré.
Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Et vivre sans contrainte.
Je suis sur une radio généraliste, donc je tiens compte des grands courants.
Il y a quelqu'un qui l'entendra, et puis ça ressortira.
Bien, bonsoir Grenoble. On s'est fait un petit peu attendre, vous êtes dans Presse Libérée. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Pierre.
On est ici pour fêter les 25 ans quand même de Radio Campus Grenoble. On peut leur souhaiter un excellent anniversaire. Et donc on a eu envie de venir ici à Grenoble ce soir pour parler de la dynamique des médias libres, indépendants, pas pareils, alternatifs, bref, tout ce foisonnement médiatique qu'il y a, puisque vous savez que Presse Libérée précisément parle de tous ces médias qui essayent de montrer une autre voie dans l'espace des médias. On commencera par les radios de Grenoble et de l'Isère, mais aussi par une autre forme peut-être d'écoute de la radio avec le festival Écoute qui se prépare du 18 au 22, si je ne me trompe pas, avril.
C'est bien ça.
Ici même à Grenoble.
19 et puis, avril, pardon.
Du 19 au 22. Merci Thomas. Et puis, après avoir fait un peu l'état des lieux des radios en se posant la question pourquoi, comment faire des radios locales, on parlera donc des journaux écrits qui sont aussi à Grenoble et un peu plus loin, peut-être dans l'agglomération ou dans les Alpes. Ça, ce sera pour la deuxième partie. On se posera la question en troisième partie de quelle économie pour tous ces médias, parce que c'est toujours compliqué. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et cette question-là, eh bien, Sébastien Boistel, notre chroniqueur qui est président donc, de Médias Citoyens PACA et qui est journaliste au mensuel Le Ravi, se l'est posé aussi. Donc on a l'enregistrement de cette chronique qu'on vous diffusera. Il n'a pas pu nous accompagner malheureusement. On accueille Pedro Olivas qui est le président de Radio Campus Grenoble. Et je crois, Pedro, que vous avez été à l'origine de Radio Campus Grenoble.
Oui, ça ne nous rajeunit pas beaucoup. Enfin, moi en tout cas. Mais merci et bonsoir à tous. Non, comme souvent, comme beaucoup de projets associatifs, bah, c'est des envies, un cumul d'initiatives et d'aspirations personnelles. Moi, j'étais étudiant, j'arrivais sur le campus et j'avais envie de découvrir d'autres choses. Et j'ai eu envie de parler de ce que je découvrais. Et puis du coup, j'en ai parlé à d'autres gens qui ont dit « Ah bah tiens, ouais, allons-y ». Qu'est-ce que c'est qu'une dynamique collective ? C'est essayer de trouver ces convergences d'intérêts entre le personnel, le momentané, et puis quelque chose qui s'inscrit plus dans le temps. Donc de proposer un cadre pour que ces interactions puissent se constituer. La chance que j'avais, moi, quand j'ai créé Campus, j'étais étudiant, et il se trouve que les campus, c'est un lieu, justement, où les gens vont pour apprendre, pour découvrir, pour partager. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui naissent sur les campus. Des projets, mais des révoltes, des révolutions, parce qu'il y a cette histoire de la connaissance hein, qui part des Grecs, sans doute. Il y a une espèce de symbolique de l'agora qui se prête bien à la production de projets, de dynamique collective. Donc moi, j'ai un peu l'impression d'avoir été pris là-dedans. Et je dirais, il faut quand même que, si je parle de Radio Campus, il faut parler de musique alternative, puisqu'on parle ici de presse libre, libérée, alternative. Je crois qu'une des caractéristiques, mais ce n'est pas que pour Campus, de la dynamique, c'était d'associer l'idée d'information indépendante avec l'idée de création indépendante de musique. Et le défi, ça a été, ou l'envie, ça a été justement de cumuler ces deux envies, ces deux aspirations provenant aussi bien d'artistes que de citoyens. Radio Campus, c'est certainement pas moi. Moi, j'étais à l'origine et puis je suis toujours là 25 ans après parce que j'essaie de voir et de soutenir tous ceux qui viennent, qui portent un morceau du projet. Et à la limite, je suis témoin pour dire qu'il est possible d'accompagner, de faire son parcours personnel en étant à la fois la tête du train, mais moi j'estime que j'ai surtout été dans le train, entraîné par tous ceux qui sont venus à la radio, dont Hilda, qui va parler tout à l'heure, a été une des toutes premières.
Les révolutions, le train, c'est beaucoup d'actualité, et d'ailleurs peut-être qu'il en sera question. On va peut-être accueillir nos autres invités pour parler de radio. Moi, Thomas, tu voulais...
Oui, j'avais une question complémentaire. Combien est-ce qu'il y a de Radio Campus en France, par curiosité ?
Alors, le chiffre exact, c'est une trentaine. Alors, 29, 32, je ne sais plus, parce que certaines sont temporaires. Mais on va dire c'est la trentaine. Très bien. De Radio 2 Campus. Il y a une subtilité, c'est que toutes ne s'appellent pas Radio Campus. Et d'ailleurs, on en parlait avec Hilda tout à l'heure, puisque quand on a construit les tout débuts de la radio, elle s'appelait Brume. Et ensuite, il y a eu un changement de nom qui a permis de marquer un peu plus, comme je disais tout à l'heure, ce lien avec l'idée d'Agora et de Monde Campus.
Alors, pour parler d'autres initiatives de radio, on a aussi Sylvain Rodinson de Radio Grésivaudan, Clémentine Métayer donc, du festival Écoute, et enfin Hilda, dont Pedro vous l'a cité tout à l'heure, Hilda Civit de Radio Dragon. Merci à tous les trois déjà et bonsoir, merci d'être là.
Bonsoir.
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 Grésivaudan, c'est aussi une des anciennes des radios libres, il me semble. Hein. Pourquoi avoir fondé Grésivaudan ? Pourquoi Grésivaudan continue aujourd'hui ?
Non, je pense que la question s'est jamais posée. En réalité, il y a des gens qui étaient passionnés par la radio parce qu'ils étaient d'abord des auditeurs des quatre radios existantes et des cinq périphériques. Ils avaient éventuellement, je pense, moi j'étais là à l'époque, mais j'étais tout petit, le désir de construire une information indépendante, ce qui était le cas de tout le monde avant 1981, puisque peu s'en souviennent, mais l'ensemble de l'information était contrôlé. En dehors des périphériques, justement, de ces grandes radios privées et commerciales, mais qui avaient néanmoins l'avantage d'être périphériques et donc de ne pas être soumis aux lois de la République française. Et donc qui nous ont permis, par exemple, en 1976, d'écouter les Sex Pistols, qui étaient par ailleurs censurés sur les radios publiques françaises. Et donc, voilà, il y avait parmi la population locale, des gens qui étaient désireux de le transmettre, de faire passer, de partager en fait toute cette culture.
On a oublié, avant de poursuivre cette conversation autour de la radio, on a oublié de signaler que News FM aurait adoré être là, mais qu'ils sont occupés par ailleurs.
Oui, alors News FM, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une radio locale qui est dédiée aux musiques et aux cultures urbaines, mais qui fait également de l'information avec une déontologie et qui fait aussi l'éducation aux médias et qui est très attachée à la liberté de parole, la liberté de la presse. Et qui a à la fois un rôle de radio citoyenne et un rôle de média solidaire. Ils ont aidé notamment Radio Dragon à se lancer. On les salue bien fort.
Et on salue aussi Radio Kaleidoscope, qui n'est pas là ce soir, mais qui est une radio grenobloise, ainsi que Couleur Chartreuse, qui diffusera cette émission. Donc on salue les auditeurs de Couleur Chartreuse. Justement, on parle de Radio Dragon. Hilda, Radio Dragon, on pourrait dire que c'est la... Enfin, moi, j'aime bien la présenter comme ça, en tout cas. C'est la dernière née des radios libres, et je crois qu'il refait vivre l'esprit des radios libres. Alors, je vais poser la même question. Pourquoi Radio Dragon ?
Ouais, la question qui tue, elle est sur le site, hein, radiodragon.org. Donc le plus simple, c'est il y a tout un explicatif et un laïus, il vaut mieux le lire. Mais c'est vrai que ça fait référence à notre territoire, qui est le Trièves, là où on est basé. On est basé à Mins. En fait, il y a une longue histoire, une longue bataille juridique, on va dire, qui s'est focalisée suite à l'ancienne radio qu'il y avait à l'époque à Mins, qui était donc Radio Montaiguille. Et c'est vrai qu'un comité s'est développé, un comité ami qui a à peu près par la suite est devenu association, les Amis de Radio Montaiguille. Donc c'était pour demander un peu de transparence concernant Radio Montaiguille, qui avait des difficultés justement d'ouverture au niveau des habitants, de plein de choses. Par la suite, effectivement, bon, bah, la radio a fait faillite et les Amis de Radio Montaiguille ont travaillé, on a travaillé en fait à l'époque... il y a presque 10 ans maintenant, à construire le témoignage et puis les archives concernant la radio. Et aussi, on savait que forcément, il y aurait une bataille par la suite à obtenir les fréquences qui devaient être proposées, mais on ne savait pas la date. Donc on a attendu.
Pour préciser, en fait, c'est le CSA qui autorise les radios, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, qu'elles soient associatives, commerciales ou autres, à émettre, et vous avez une difficulté là-dessus, c'est que vous avez attendu un moment avant que le CSA vous ouvre cette possibilité-là.
Voilà, officiellement, administrativement, bon, bah, y a des dates qui se font. Effectivement, le dossier, nous, était prêt depuis longtemps. Donc quand on a connu les dates, on a proposé notre candidature, parce qu'on n'était pas tout seul, évidemment. Donc on a encore attendu, et c'est vrai que depuis à peu près presque 2 ans maintenant, officiellement, on a obtenu les ondes, on en a 2. Donc sur le Trièves 104.4 et le 96.8 pour la Matésine. Ensuite, voilà, c'est l'équipe aussi qui s'est construite. Donc comme disait Pedro, il y a une dynamique qui se crée, notamment à Mins, parce que On est une petite population quand même, donc il y a une équipe qui se crée, il y a des gens qui viennent, des changements de line-up. Enfin bon, il y a aussi cela en tant que radio associative à maintenir et à construire le projet qui débute. Ce qu'on voulait vraiment, c'est que ça soit un média local, associatif, vraiment très local, ouvert à tout le monde. Donc il n'y a pas de prérequis, juste la motivation et l'envie de faire de la radio. On apprend, on s'écoute, on participe, même au niveau associatif. C'est une collégiale, je tiens quand même à le signaler. Moi, par exemple, je suis coprésidente, on est une dizaine à peu près. C'est vraiment une volonté à ce niveau. On travaille par commission, donc chacun peut venir s'inscrire dans une commission, qu'elle soit de programmation, administrative, technique, etc., etc. La dernière année est... Et la musique. Donc la volonté, c'est ça, c'est vraiment faire adhérer et participer les gens qui habitent, mais aussi de passage, et construire d'autres projets.
Je vais reposer ma question du pourquoi, parce que les radios, il y en a beaucoup. Les radios locales, il y en a, le service public en fait déjà, c'est France Bleu. Donc pourquoi des radios associatives locales ? On a déjà eu un début de réponse avec Radio Dragon et Hilda. Donc, si j'ai bien compris, si on peut résumer comme ça, Hilda, ce serait une radio pour et par les habitants. Oui. Voilà, mais du côté de Radio Campus Grenoble et du côté de Grésivaudan, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce pourquoi et sur comment vous faites participer un petit peu les gens à votre radio ?
Alors, je vais parler pour Radio Grésivaudan. Il y a une chose que je voudrais dire tout de suite, parce qu'elle me trotte dans la tête quand même depuis un moment. Excuse-moi si je ne réponds pas tout de suite complètement à tes questions. Mais
problème.
C'est la question de l'indépendance. Je voulais dire que l'indépendance, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a pas d'indépendance. On est tous, au contraire, hyper interdépendants. Par contre, on n'est pas soumis. Et ça, c'est la différence. Alors, le fait d'être interdépendant, ça permet de créer des collectifs. Ces collectifs peuvent tendre à une certaine professionnalisation, comme c'est le cas, c'est ce qu'on a essayé en tous les cas de faire à Radio Grésivaudan, avec des gens qu'on essaye de garder comme permanents à l'intérieur de la radio, qui peuvent être des professionnels de la technique, du journalisme, de la transmission aussi, avec des ateliers qui sont portés auprès notamment des scolaires. Tout ça au service, effectivement, on l'a déjà dit, de la population. C'est-à-dire que des professionnels qualifiés ont les compétences et les moyens d'accueillir une population qui, elle, n'a pas ces compétences et ces moyens-là, et de mettre ces compétences et ces moyens au service de cette population pour lui permettre de s'exprimer. Et c'est l'objet des partenariats qui ont lieu avec nombreuses associations qui sont sur notre terrain et sur notre territoire, et qui, elles, sont aussi là pour partager et transmettre des savoirs, des connaissances, des savoir-faire.
Pedro, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette discussion-là ?
La question initiale était pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi pour qui ? Alors que des radios locales, il en existe déjà dans les services publics et aussi dans les commerciales, d'ailleurs, on pourrait le dire.
Alors ça tombe bien qu'on soit un peu en train de... qu'on s'inscrive dans le cadre des 25 ans, parce que il y a 25 ans, je me disais, il faut absolument que je rencontre des gens, qu'on construise du collectif pour produire cette radio. Et 25 ans après, je pense exactement le contraire. Il faut qu'on ait une radio pour que les gens se rencontrent et qu'on produise du collectif. Selon moi, une radio associative, une radio locale, c'est pas tant le média, même si on va en parler, c'est très important justement de trouver de l'information, de la partager. Pour moi, l'aventure associative qui est Campus, c'est que finalement, c'est plus un cadre, un prétexte pour créer du lien, pour créer de la rencontre, pour partager des choses. C'est-à-dire que pour faire en sorte que la société ne soit pas une cohabitation d'individus, mais une conjonction de projets collectifs à deux, à trois. Et en ça, le monde radiophonique, l'univers radiophonique est assez idéal. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, on dirait oui, mais maintenant, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est social. Mais en fait, derrière une radio, et j'insiste, une radio locale, il y a un peu de technique, pas trop, il y a du direct, il y a du différé. Quand je dis un peu de technique, c'est-à-dire des choses qui sont maîtrisables, c'est-à-dire qu'on peut faire tout seul, à deux, à trois. C'est un levier pour diffuser de la musique, pour en produire, pour en organiser. En fait, c'est un catalyseur. Ça fait sourire beaucoup de gens quand je dis finalement Radio Campus, c'est un club de rencontres. Un cadre qui permet aux individus de prendre conscience de leur convergence d'intérêts, de leur recoupement, et puis de travailler ensemble. Une expérience, une production radiophonique, elle peut être très fouillée, on peut travailler 6 mois pour produire 3 minutes très léchés, ou inversement, ben, on peut improviser, dire des choses qui sont peut-être pas terribles, et puis c'est pas grave, ça dure que quelques secondes, limite parce que c'est pas écrit, ça se retournera pas contre vous dès le lendemain, etc. Donc c'est flexible, et je trouve que c'est très propice au fait de créer du lien, de créer de la rencontre, de créer du projet. Mais moi, j'en suis arrivé à cette conclusion qu'il faut, non pas des gens pour faire des radios, mais il faut des radios pour faire en sorte qu'il y ait de la création, de la créativité sociale.
La radio, c'est aussi autre chose. Ça peut être aussi une autre forme d'écoute. Et c'est le Festival Écoute qui proposera ça du 19 au 22 avril à Grenoble. Donc Clémentine Métayer, tu fais partie de l'organisation de ce festival. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Toujours cette question, pourquoi ? Pourquoi ce festival ? Pourquoi avoir voulu proposer de nouvelles écoutes ?
Proposer déjà une écoute ou proposer de s'intéresser à l'écoute ou aux écoutes. Alors c'est vrai que le titre, il peut paraître un peu simpliste. C'est écoute avec un S entre parenthèses. On est 5 amis, ou en tout cas des gens qui se connaissent, on gravite un peu ensemble. On n'est pas tous de Grenoble, on est de la région Rhône-Alpes. On a tous un lien différent avec la radio. Ce qui fait d'ailleurs que le programme est très hétéroclite. Alors peut-être justement qu'il part un peu dans tous les sens, mais on a plutôt quelqu'un dans le côté artistique qui utilise le son pour ses pièces de théâtre. On a quelqu'un qui fait plus du documentaire, mais qui à côté travaille dans l'associatif. Moi, pour ma part, je suis journaliste. Je fais beaucoup de reportages radio. J'ai travaillé beaucoup dans les radios. J'ai fait mes premiers pas à Radio Campus. Donc pour moi, la radio associative et le local a beaucoup de sens. Quand on commence à faire un peu de documentaire, à rentrer, on va dire, dans le vif de la radio, c'est plus un plaisir parfois, c'est très compliqué. Le monde même le monde du journalisme, mais aussi du documentariste radio, c'est compliqué pour faire de la radio et en vivre, c'est même quasiment impossible. Donc il existe des festivals dont le plus connu reste le Festival Longueur d'onde à Brest, qui invite chaque année des gens à parler radio et surtout à faire des écoutes. Et en fait, ça fait un moment qu'on se disait, il n'existe rien à Grenoble et même dans le Grand Est, en fait. Donc c'était un peu une audace de se dire, on est 5, on se regroupe, et puis on va proposer une initiative à Grenoble dans l'objectif vraiment que les radios associatives s'en saisissent. C'était ça l'objectif initial. Dès le début, je me souviens, même Sylvain ou Farid de News FM m'ont dit, mais en fait, on l'attendait depuis 10 ans, cette initiative. On savait qu'il y avait cette envie. C'est né comme ça, dans un objectif vraiment de dire que la radio existe, le son existe, mais pas seulement via les ondes, aussi l'environnement sonore. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le tout image fait peur et ou en tout cas est en train de disparaître. C'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui dans le monde médiatique. Et le son est en train de trouver une autre place. Je dirais que c'est une audace, quoi. C'est l'idée de se dire, et vous, quel usage avez-vous de vos oreilles, quoi ?
Qu'est-ce que vous allez proposer de façon un peu plus concrète ? Qu'est-ce qu'on aura à écouter ?
On va dire qu'au centre, au cœur de ce programme, il y a des séances d'écoute. Donc l'idée vraiment de dire, venez, c'est comme le cinéma pour les oreilles, on n'a pas l'habitude d'aller juste s'installer, écouter du son pendant une heure ou pendant une demi-heure, et surtout montrer aux habitants ou aux gens qui n'ont pas l'habitude qu'il y a d'autres formes que seulement la radio. Il y a aussi du documentaire et d'autres formes que du reportage. Donc l'idée, voilà, c'est d'inviter les gens dans différents endroits. Alors au début, on fantasmait, on voulait aller en prison, dans la poste, on voulait faire plein de choses complètement incongrues. Finalement, c'est très compliqué à mettre en place, mais l'idée, donc, y a plusieurs séances d'écoute dans différents endroits, et notamment des endroits aussi qui ne sont pas ouverts au public, dans l'idée de travailler en lien avec les structures sociales, puisqu'on est implanté dans un quartier de Grenoble qui s'appelle le quartier Saint-Bruno, pour des questions simples et puis d'organisation, et puis pour travailler en lien avec les structures locales, par exemple dans une maison de retraite. L'idée est de dire, on s'invite avec les retraités pour échanger sur le son. Donc ça, c'est une première partie du festival. Et puis, un second temps plus consacré aux radios associatives, donc des rendez-vous. Les 25 ans de Radio Campus, c'est notre fil rouge, en fait, du festival, puisque Radio Campus va être installé en plein milieu de la programmation. Et puis également un temps de rencontres et d'ateliers, avec des rencontres avec des auteurs. Donc on aura notamment... un camarade, si je peux dire, Antoine Chao, qui lui viendra parler vraiment des thématiques comme vous abordez aujourd'hui, plutôt du rôle des radios associatives, parce que lui c'est un peu un résistant dans la radio publique pour le coup, qui lui fait vraiment du terrain, qui est proche des gens, enfin qui est vraiment dans cette conception de la radio, ça sert à quoi et comment elle fait un travail de lien social et de proximité. Donc l'idée c'était d'inviter des associations à se rejoindre sur notre festival, donc on a eu beaucoup de choses qu'on a dû choisir. Et puis une soirée plus expérimentale, sonore, musicale, le vendredi soir, pour que ce soit aussi un peu festif et collectif.
Ben merci beaucoup Clémentine.
Vous êtes plein de réussite.
Et on va te saluer parce que tu vas quitter ce plateau en cours de route. On aura plaisir à venir à ce festival Écoute. On va faire une petite pause musicale avant de repartir avec la presse écrite du côté de Grenoble.
Ici Jean Pat de Radio Pirate.
Wow. Radio
Pirate.
Radio.
Tout le monde s'éclate.
Radio
Pirate.
Radio. Tout le monde s'éclate.
On a le tube, on a le pub.
Allô, bravo radio.
Radio.
Oh, oh.
Radio Pirate.
Radio. Tout le monde s'éclate.
Wow, music.
Dans un vieux terrain vague, une antenne en zigzag.
On a notre poste à nous. On s'amuse comme des fous.
Dehors le rage fait rage. Les ions portent nos messages.
Dans le micro ça rigole, les fous ont la parole.
T'aurais pas un reggae?
Ouais, super.
J'ai envie de m'éclater.
J'ai un disque du Splendide.
Oh non, la tasse, le bide.
Fais un peu gaffe, Martine.
Bah quoi?
T'as le cul sur la platine.
Ah bon?
Dans le micro je rigole, mais pour la parole.
Radio.
Radio Pirate.
Radio.
Tout le monde s'éclate.
Radio.
Radio Pirate.
Radio. Tout le monde s'éclate.
On a le tube,
tube.
On a le pub.
Allô, bravo radio.
Radio.
Oh, oh. Radio.
Radio Pirate.
Radio. Tout le monde s'éclate.
Wow, music. Yeah, super musique, c'est trop. Wow.
Allô, ici c'est Bob. Oh, oh.
Peu coincé, chère jeune fille délurée.
Cucu, c'est moi, Popole. Bonjour à toutes les folles.
Radio
Pirate.
Radio.
Tout le monde s'éclate.
Radio
Pirate.
Radio. Tout le monde s'éclate.
Radio Pirate.
Radio.
Tout le monde s'éclate.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Presse Libérée sur le 90.8 de Radio Campus Grenoble. Donc pour cette deuxième partie d'émission, on va parler des médias écrits, puisqu'on a largement parlé des radios. Et en troisième partie, on parlera de l'économie pour tous ces médias, que ce soit des radios, des sites internet ou des journaux. On accueille donc pour cette seconde partie Vincent Martin pour Alpela, Benjamin Bultel du Crieur de la Villeneuve, Vincent Perret du Postillon et enfin Muriel Baudouin de Place Grenette. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci déjà d'être venu jusqu'à nous ici pour parler de vos différentes initiatives. On va poser la même question que pour les radios, pour commencer.
C'est donc pourquoi ?
Voilà, pourquoi faire un journal local ? Et puis comme ça, ça vous permettra de nous en dire un petit peu plus de votre initiative, alors que de la presse locale, il y en a. Je crois que vous avez un quotidien assez réputé, entre guillemets, qui s'appelle le Dauphiné Libéré, ici à Grenoble.
Un très beau bâtiment avec un aigle dessus.
Qui veut commencer ? Peut-être le postillon ?
Ben, nous, on s'ennuyait, je crois. On voulait faire un projet et pour briller en société. Et comme il n'y avait pas trop de journaux, quoi, il n'y avait à peu près que le Dauphiné Libéré, en tout cas un média papier, et puis un média d'annonce légale, les affiches, et voilà, des choses avec énormément de publicité et souvent des articles pas très intéressants. Nous, on adorait le local et la presse satirique, critique, et donc on a essayé de mêler les deux.
Est-ce que ça veut dire que vous faites un peu plus d'enquête aussi, peut-être, que peut le faire un journal de presse quotidienne régionale ?
Ben, on essaye, oui, en tout cas. Non, on essaye de prendre plus le temps de traiter les sujets, d'avoir des angles originaux, d'essayer de fouiller, de creuser. Il y a des choses qui ressemblent à des enquêtes, il y a des choses qui c'est plus des reportages, des interviews.
Vous existez depuis combien de temps ?
Ça fait 9 ans.
Avec un rythme de publication tous les deux ou trois
tous
mois.
Tous les deux mois, oui.
Et vous êtes diffusé ailleurs qu'à Grenoble ou vous êtes présent que dans les kiosques ?
Non, c'est Grenoble et son agglomération et sa cuvette, comme on dit. Et un petit peu jusque les contrées éloignées du Trièvre ou du Voironnais, voire vers Crolles, Bourdoisan même, je crois.
Et alors, vous faites pas mal de photomontages, vous avez un ton très satirique. D'ailleurs, votre slogan, je te laisse le dire, parle de lui-même.
Ah, c'est amour, glaire et beauté, oui. C'est un jeu de mots sur postillon, mais nous, on a choisi ce nom surtout pour le sens premier de postillon, qui était le conducteur de la diligence, celui qui amenait les nouvelles au 19e siècle. Et en fait, il y avait un journal qui s'appelait comme ça déjà au 19e siècle à Grenoble, qui était très bien écrit et assez drôle.
Alors, comme votre journal, ce coup-ci sur Internet, qui traite des actualités grenobloises, mais pas que, hein, je crois que vos sujets vont un peu plus large en Isère. C'est Place Grenette.
Oui, effectivement. Donc nous, bon, on couvre en priorité l'agglomération grenobloise, mais aussi les massifs environnants. Et quand il y a des choses importantes qui se passent en Savoie et Haute-Savoie, on couvre aussi notamment les sujets stations. Nous, on cherche aussi à informer vraiment des personnes qui cherchent à avoir l'essentiel de l'information. Donc c'est pour ça que c'est l'essentiel de l'information sur Grenoble et autour de Grenoble, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est pas la remise de médaille à Monsieur Machin qui part à la retraite, ça on n'en parlera jamais, mais ça va être les grands enjeux dans le bassin grenoblois et où autour ça peut être aussi le Center Park, où ça peut être voilà, des sujets qui attirent notre attention et dont on pense qu'ils vont intéresser le citoyen lambda.
Du coup, vous avez une publication quotidienne pour faire un bilan comme ça ?
Oui, on publie tous les jours et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en fait, c'est du non-stop.
Et alors, pour rendre accessible l'information, vous avez une version abonnée et une version gratuite ? Ou tout est abonné ?
Oui, alors on a effectivement trois quarts à peu près des contenus qui sont libres d'accès et un quart qui est réservé aux abonnés. Donc on réserve aux abonnés les articles qui demandent plus de décryptage, de reportage, d'enquête. Il y a un plus par rapport aux autres articles en général.
On va rester sur Grenoble avant d'élargir aux Alpes. Benjamin, tu t'investis dans le Crieur de la Villeneuve, un journal qui a une histoire bien particulière parce que vous êtes sur un quartier particulier et avec du coup une réponse à un traitement médiatique de ce quartier. C'est ça qui a fondé l'origine de votre journal, c'est bien ça ?
À la base, c'est en septembre 2013, il y a un reportage d'Envoyé spécial, donc l'émission phare de France 2, qui a tourné un documentaire sur le quartier qui s'appelait Villeneuve, le rêve brisé, et donc qui présentait Villeneuve comme un ghetto où il n'y avait que de la violence, où les dealers régnaient en maître. Voilà, qui était complètement bidonné comme reportage, et qui a énormément choqué les habitants, qui se sont mobilisés pour protester contre cette vision de leur quartier, et puis la vision des quartiers populaires, en fait, en général en France. Donc il y a eu plusieurs actions qui ont été menées, notamment ils ont porté plainte en diffamation contre France Télévisions. C'est la première fois qu'il y avait des habitants qui portaient plainte en diffamation comme ça. Donc ils ont malheureusement perdu le procès, mais ça a pas mal médiatisé leur lutte. Parmi les autres initiatives, il y avait l'idée de créer un média sur le quartier, en fait, pour porter une autre voix des quartiers populaires, une autre voix de la Villeneuve, en fait. C'est comme ça que l'idée du Crieur a germé, donc du côté des habitants. Puis nous, on était un petit groupe du master journalisme de Sciences Po, et du coup, c'est comme ça qu'on a créé ce média.
Est-ce que ça veut dire que c'est toujours les habitants qui écrivent dans le Crieur de la Villeneuve ?
Ouais, c'est exclusivement des gens du quartier qui écrivent. Moi, j'habite le quartier, les pigistes, les contributions bénévoles, les tribunes, c'est que des gens du quartier. Ouais. On a à la fois un site internet et une version papier. Bon, sur le site, c'est un peu au fur et à mesure que les articles sont prêts. Et sur la version papier, c'est une version mensuelle, sauf pendant les deux mois d'été où on ne publie pas.
Et enfin, on accueille un projet de journal qui n'est pas encore un journal, c'est Alpes-là, mais qui devrait arriver. Donc Vincent, pourquoi vouloir faire un journal qui parle de questions alpines ?
Donc Alpes-là, c'est un média qui va raconter ce qui se passe dans les Alpes, donc qui est un média en cours de création. On a eu envie de proposer un média qui reflète vraiment ce qui se passe dans les Alpes, la vie des habitants, et qui aille au-delà peut-être du cliché qu'on va avoir parfois dans les principaux médias, où on va juste parler de la station, on va peut-être parler des morts dans les avalanches, on va parler juste de quelques sujets, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent dans les Alpes. Il y a des territoires qui sont extrêmement dynamiques, avec des initiatives en fait, un peu partout dans les territoires. Et nous, on pense que c'est important qu'elles puissent être valorisées.
Alors, on parle des Alpes, ça veut dire que vous envisagez de faire votre publication à quelle échelle ? Est-ce que c'est l'ensemble de l'arc alpin ? Est-ce que c'est les Alpes françaises ? Est-ce que c'est l'Isère ?
Bien sûr, ça pourrait être intéressant de faire sur l'ensemble de l'arc alpin, mais pour démarrer un projet, c'est peut-être un peu ambitieux. Donc on va rester sur les Alpes francophones, à la fois parce qu'au niveau géographique, c'est un secteur plus restreint. C'est aussi un secteur qu'on connaît bien. On est principalement pour l'instant basé sur Grenoble et sur Voiron, mais l'idée, c'est pas juste de s'adresser aux Grenoblois, mais que ce média qui va être sur Internet, il puisse faire écho à vraiment tous les habitants des Alpes.
On va revenir à Grenoble et je pense que tous les quatre, vous aurez des choses à dire sur la question. Puisqu'on parle justement de médias qui ont parfois tendance à être un petit peu caricaturales sur les choses, à Grenoble, vous avez un maire écologiste. Quel regard vous avez par rapport à la politique que fait la mairie de Grenoble ? Parce que c'est vrai qu'au niveau national, on a un petit peu l'image « Oh, ben Grenoble, c'est super, on arrête la pub, il y a plein d'initiatives qui se prennent. » Mais est-ce que vos médias peuvent apporter un point de vue un peu plus critique ?
C'est vraiment une question très difficile. Il ne s'agit pas de juger de la politique parce que nous, on n'est pas du tout dans la presse d'opinion. On fait du journalisme qui se veut de décryptage et d'analyse. Hein. Mais simplement, oui, on peut dire que c'est surprenant qu'une municipalité rouge et verte ait coupé les pubs d'un média indépendant au prétexte qu'il faisait du journalisme justement trop critique vis-à-vis de cette municipalité.
Ça a été sur quel sujet en particulier
Alors, il paraît que ce sont notamment les articles sur la fermeture des bibliothèques municipales qui n'avaient pas été appréciés, mais d'autres aussi sans doute.
Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus justement sur la fermeture des bibliothèques municipales ?
Ils font partie d'un plan de restructuration qui ne s'appelle pas comme ça, mais...
Plan de sauvegarde, je
crois. Oui, c'est ça, plan de sauvegarde. Il y a eu des fermetures de deux bibliothèques et une transformation de la bibliothèque Alliance en tiers-lieu. Il y a eu une réduction des moyens, mais parce que la ville a moins de moyens de l'État aussi. Mais en tout cas, il y a eu des gros mouvements sociaux. Et nous, en tant que journalistes, c'est ça qui nous a intéressés. C'est qu'en fait, il y a eu des luttes qui ont été menées par les bibliothécaires qui ont contesté cette décision pendant des mois. Il y a eu des blocages du conseil municipal, etc. Et donc, en tant que journalistes, nous, c'est ça qu'on a couvert. Et c'est un peu ce qu'on nous a reproché d'avoir couvert. On a eu aussi des pressions... On espère que ça va changer. Il y a un nouveau directeur de la communication. Donc écoutez, s'il nous entend, d'ailleurs, on a bientôt rendez-vous. On attend de voir si la politique va changer avec l'homme. Il y a eu des pressions aussi à une certaine époque pour savoir ce que nous allions écrire.
Il y a quand même un phénomène assez incroyable avec cette municipalité. C'est effectivement, dès qu'on va dans d'autres villes que Grenoble, il y a plein de gens qui nous disent « Alors, c'est super, vous habitez à Grenoble et compagnie ». Parce qu'ils ont un don pour la communication nationale, mais pour ce qui se passe au niveau local, ça tranche vraiment quand on y vit et qu'il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent de plein de choses, de ce que fait la mairie, des choses assez attendues vu leur programme, parce que par exemple, ils réduisent la place de la bagnole pour le vélo et compagnie, donc tous les gens attachés à la bagnole râlent, ce qui était attendu, et d'autres choses moins attendues, notamment sur les coupes qu'ils ont faites sur le social ou le culturel. Il faut se méfier de la communication nationale, quoi.
Du côté de la Villeneuve, j'imagine que, vu votre expérience, vous partagez cet avis-là, se méfier de la communication nationale ?
Non, moi j'adore ce que fait la mairie, de toute façon.
Je crois que vous avez des subventions, non ?
Non, justement, on n'a pas de subvention de la mairie. Mais si tu veux un bon moyen de plus te faire couper les pubs par la mairie, il ne faut pas mettre de pubs, c'est peut-être plus simple.
Pardon, mais au départ, il n'y a pas de lien, je vois pas pourquoi ça serait un problème, en fait.
Ouais. On en discutera après.
Donc ça fait partie des questions, donc j'espère bien qu'on va en débattre dans cette émission.
Plus sérieusement, quand je disais que j'adore la mairie, c'était bien sûr de l'ironie. Nous, la mairie, là, ce qu'ils sont en train de nous programmer, c'est des nouvelles destructions en fait, d'immeubles, des destructions de logements sociaux, contre lesquelles on proteste depuis maintenant 2 ans. Mais donc c'est un espèce d'éternel recommencement en fait, parce que c'était déjà ce que programmait la mairie d'avant, la municipalité de Destaux. Il y avait en fait à Villeneuve un fort mouvement de soulagement, un peu d'espoir quand c'est la municipalité de Piolle qui a été élue. Finalement, on se retrouve avec à peu près la même politique pour les quartiers populaires. Des destructions, on a eu la fermeture de la piscine, la bibliothèque, donc c'est pas sur le quartier de la Villeneuve, mais c'est sur la bibliothèque Prémol, donc au village olympique, le quartier d'à côté qui a fermé. Il y a quand même, en tout cas dans le quartier de la Villeneuve, il y a un certain ras-le-bol en fait de la politique municipale. Ouais.
Si je peux intervenir sur l'aspect purement écologique, il y a un exemple très concret, c'est que la ville de Grenoble a beaucoup communiqué sur les cantines bio dans les écoles, mais par contre, pour ce qui concerne les crèches, il n'y avait absolument pas de bio depuis 2014 et on est en 2018. Et c'est sous la pression des parents que finalement, ils ont commencé à en mettre un petit peu. Ça, c'est un exemple très concret.
Donc, on voulait revenir sur le potion et effectivement, vous avez fait l'objet d'une attaque en justice.
Est-ce que... c'était pas la mairie, là, c'était la métropole. Non, en fait, c'était pas la métropole, c'était le maire de Pont-de-Claix, qui s'appelle Christophe Ferrari, qui est aussi président de la métropole et qui, justement, c'est encore une histoire de communication, parce qu'il est beaucoup moins connu qu'Éric Piolle. La ville de Grenoble, du coup, il s'est dit qu'il allait nous attaquer pour avoir un peu de notoriété à travers... un procès.
Il vous attaque en diffamation, c'est ça ? Il n'a pas aimé un de vos articles ?
Oui, en fait, on a fait un article sur la gestion des ressources humaines à la mairie de Pont-de-Claix, et en gros, qui était surtout des témoignages de personnes qui expliquaient, depuis qu'il était aux manettes, des certaines... mal-être au travail, et une gestion des ressources humaines assez questionnante par moment. Et nous, c'était essentiellement des retranscriptions de paroles. Ils ont attaqué pour injure et diffamation, au début, en disant que tout était faux. Comme on a prouvé que c'était des vrais témoignages. Finalement, c'était qu'on était condamnés parce qu'on n'a pas assez fait attention à leur donner la parole. On les a juste appelés, ils n'ont pas répondu, on aurait dû leur envoyer un mail pour avoir leur avis.
Est-ce que cette procédure judiciaire-là, elle a été un frein à l'activité du postillon, que ce soit parce que vous avez passé du temps à devoir faire un dossier, puis aller en justice, et puis etc. Que ce soit économique, parce que dans des procès, souvent, il faut mobiliser de l'argent, ou au contraire, ça vous a redonné un coup de boost et peut-être une visibilité.
Ni l'un ni l'autre, je dirais. On en a profité pour effectivement faire 2-3 événements, ça a fait un peu parler de nous, mais après, ça nous a coûté de l'argent, en tout, près de 6000 euros entre les amendes et les frais d'avocat et de procédure et compagnie. Et après, c'est chiant quand même, les avocats, préparer les choses. Si on n'a pas d'autres procès, c'est pas grave, quoi. Mais si on en a d'autres, c'est pas grave non plus, mais...
Ça vous empêchera pas de faire le travail, quoi.
On réfléchit pas comme ça, quoi. On fait très attention à pas écrire de choses fausses.
C'est vrai que les actions qui ont été faites suite à vos démêlés judiciaires, ça vous a fait quand même connaître un petit peu au niveau national, je suppose, hors de certains milieux militants, s'il y a quelque chose...
Ouais, ça fait un peu parler de nous, mais par exemple, au niveau des ventes, nous, c'est tout ce qui nous intéresse. Non, ça n'a pas vraiment non plus décollé, quoi. Après, de toute façon, ça fait un peu des vagues et on ne sait jamais tous les facteurs qui font que des numéros vont très bien partir et d'autres moins. Mais c'est marrant parce que plusieurs fois, on a, soit pour cette histoire, soit pour d'autres sujets, nos infos ont été reprises par d'autres médias où on a pas mal parlé de nous, mais ce n'est pas forcément les numéros qui se vendent le mieux, quoi.
On va faire une petite pause musicale dans cette émission Presse Libérée et on se retrouvera pour la dernière partie pour parler de l'économie de tous ces médias que l'on reçoit.
I think you know the rules of our game.
I have no time to play games.
Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sit, hear the clock tick, watch the leaves on the plant flick from the fan above the room and I lit. Head trip deliberate, cease fighting the feeling and submit. Flow with it like the path pre-existing, hidden codes masonic. They peep us like a webcam from the pyramid's attic. Pass from hand to hand, let's say coincidence. Or better yet, sixth sense, my instincts telling me to back up from that handshake that was intense. My instincts telling me to back up from that handshake that was intense. Brush it off and commence, blame it on myself tripping till the shit hits the fan. Cause I steer from the plan about face. And Billie Jean's
step into place, throw my coat on the hook, recap the time that I waste. I know that spitting's a bad habit, but I can't help the taste. Still searching for the clues as it becomes a cold case. Procrastinate till I think to remove the sheet from your face. Reveal the naysayer, say yeah, say yeah. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I let you play them anyway. Sweating, getting hotter, change it to my bother. I'm about to rip you up, such a control freak. You mouth the words I speak, you got your nerve. You question me, but you ain't even listening. Your world is make-believe, but I keep pretending that I'm flexible. So you think your will's got me bending, putting all your energy into negativity. You're holding over me while you steady scheming, but I'm making moves while you sleeping and dreaming of being larger than life, your own hype you believe in. You've been faking the funk since the beginning. Too many chapters and now to rewrite and fix the ending. Besides, you question what kind of message that be sending. That you's a chump, punk, what, so what? I care not of the roles you choose to play. By the way, I'm sure of a beginning and an end, but everything in between is all gray.
Et vous écoutez toujours Presse Libérée sur Radio Campus Grenoble et sur les autres radios aussi qui diffusent cette émission. On vous en donnera toute la liste à la fin de l'émission. On va retrouver tout de suite en fait Sébastien Boistel, notre chroniqueur, journaliste au Ravi, qui va nous parler de l'expérience malheureuse d'Hebdo. Cet hebdomadaire qui s'est lancé en début d'année avec grand fracas et qui, pour le coup, s'est terminé quelques mois plus tard avec grand fracas aussi. Et ça ouvrira la réflexion sur l'économie des médias et l'économie des médias que nous avons ici ce soir autour de la table. Place à Sébastien.
Quand on s'intéresse aux médias libres indépendants, pas pareil, ça ressemble un peu à lire la rubrique nécrologique. Bon, certes, vous me direz, apprendre que Zélium doit désormais en passer par du crowdfunding pour financer chaque numéro, que l'auguste revue Écolo Silence serre les fesses en lançant le sien, ou qu'un vieux canard comme le Lot en action mette la clé sous la porte au bout de 10 ans et de plus d'une centaine de numéros, vous me direz rien que du très normal. Mais ces derniers temps, on a eu affaire à des lancements on ne peut plus retentissants de médias dont la trajectoire n'est pas sans rappeler celle de l'homme canon ou, dans un registre plus culinaire, celle du soufflé. Vous savez, cette spécialité qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, pour, si on y prend garde, retomber lamentablement. Au point qu'on en vient à se demander s'il n'y aurait pas une déclinaison médiatique de la mort subite du nourrisson. Bon, pour le média, vous savez, le JT qui n'est pas celui de Jean-Luc Mélenchon, mais quand même, on exagère. Toutefois, quand ils ont annoncé pour de rire et pour le 1er avril qu'ils arrêtaient, certains ont pris l'information au premier degré et s'en sont même réjouis. Le média, donc, à Presse Libérée, on connaît bien parce qu'on s'était empaillé avec la rédactrice en chef, Aude Rossigneux. Eh bien, le média a été agité par une belle polémique liée au départ de celle-ci. Un départ avec pères et fracas. Un départ qui a été suivi par d'autres, comme par exemple Noël Mamère, l'ancien journaliste devenu homme politique puis redevenu journaliste. À cela s'ajoute la prise de distance de pas mal de soutiens, du fait notamment du traitement très particulier de l'actualité internationale. Mais pour Hebdo, l'hebdomadaire lancé par les équipes de 21 et de 6 mois, après à peine 3 mois de parution, boum, c'est fini. La société éditrice est en cessation de paiement et pourrait se retrouver sur le carreau, pas loin d'une soixantaine de personnes. L'idée de l'hebdo, c'était un peu un mix entre, d'un côté, la prétention de la revue 21 de réinventer le journalisme, et de l'autre, l'info à trois voix chère à Rue 89, avec ce dialogue entre journalistes, experts et lecteurs que tout le monde aujourd'hui pratique peu ou prou, ou en tout cas dit qu'il le pratique. Ce fut aussi une tournée dans toute la France pour constituer La Source, un collectif de lecteurs prêts à alerter les journalistes, voire à apporter leur expertise, et pour récolter quelques ressources, notamment par une des plus belles opérations de financement participatif que le monde des médias a connue, puisque l'Hebdo a recueilli plus de 400 000 euros. À titre de comparaison, quand le Ravi lance une opération de crowdfunding, c'est pour demander modeste 30 000 euros et il s'excuse de le faire. Seulement voilà, Hebdo, c'est aussi dès le 5e ou 6e numéro l'affaire Nicolas Hulot. la dénonciation d'un scandale sexuel visant le ministre de l'écologie et personnalité préférée des Français. Enfin, à l'époque, peut-être avant qu'il devienne ministre. L'enquête a fait pchit et les ventes, elles, se sont effondrées. Quant aux perspectives de recapitaliser, de trouver de nouveaux investisseurs, elles se sont, elles, volatilisées définitivement. Donc la mort de Hebdo, c'est comme les difficultés du média, ça prouve que le contenu, ça compte et ça joue. Mais pas seulement. Hebdo, c'est aussi un beau gâchis et une certaine forme d'amateurisme. Gâchis, parce que s'il y a une belle réussite, en l'occurrence le fait d'associer les lecteurs dans l'élaboration des sujets, c'est un échec suffisamment retentissant pour rester. Au passage, cela indique aussi un côté consumériste à l'égard de l'info assez inquiétant, puisque visiblement, des lecteurs ont assez vite tourné le dos à une publication qui venait juste de naître, sans lui donner le temps de trouver ses marques. Un peu comme si vous décidiez de ne plus aller à la boulangerie du coin parce qu'un matin, le pain n'était pas aussi bon que les autres jours. L'information, ça ne s'achète pas, ça se finance. Bon, message à caractère subliminal. Et amateurisme, parce qu'en discutant avec certains qui ont fait partie de cette aventure, on se demande comment des personnes qui ont mené avec succès des projets comme 21 ou 6 mois ont pu se planter ainsi. En interne, ce qui a été dit aux salariés, c'est que le titre avait 2 ans pour s'installer. Sauf que rapidement, l'équipe dirigeante a su qu'il allait être difficile de recapitaliser. Autant dire que le choix de sortir l'affaire Hulot après quelques numéros et sans avoir les reins assez solides pour le faire apparaît au mieux comme un coup de poker hasardeux, au pire comme un véritable suicide. Amateurisme aussi parce que plutôt que de constituer une société ad hoc pour Hebdo, là, c'est la société éditrice de 21 et 6 mois qui a pris sous son aile ce canard, ce qui est louable. Mais on ne peut plus imprudent, car la chute d'Hebdo risque d'entraîner celle de 21 et de 6 mois. Peut-être y a-t-il eu derrière quelques excès de confiance, voire une certaine méconnaissance des difficultés de la presse. En témoigne le fait d'avoir d'emblée embauché une trentaine de journalistes. Nous, dans nos médias désargentés, on fait preuve d'un ascétisme presque protestant, au point que recourir à une main-d'œuvre qui n'est pas gratuite puisse presque apparaître pour de l'hérésie. Ce qui nous rapproche autant de la sphère la plus militante que des pouvoirs publics. Alors oui, quand on s'intéresse aux médias libres, indépendants, pas pareil, on a aussi parfois l'impression de s'occuper de la rubrique minceur dans un magazine, voire d'une chronique sur les pratiques extrêmes comme le jeûne. Mais comme l'avait écrit Kafka avec sa nouvelle « Un artiste de la faim », ça finit parfois la rubrique nécrologique.
C'était la chronique de Sébastien Boistel qui n'a pas pu nous suivre jusqu'à Grenoble, mais qui aurait bien aimé être là pour discuter autour de cette table. On en profite pour saluer le Lot en Action, chez qui on s'était rendu en septembre avec Presse Libérée, qui a cessé ses activités papier. Il reste toujours un site internet et c'est bien triste.
Et qui se rapproche de la trousse corrézienne juste à côté pour essayer de continuer à produire l'information locale.
Tout ça pour dire que, et cette chronique servira en guise d'introduction, que faire des médias, ben, c'est pas facile, qu'on a besoin d'argent, on a besoin de soutien des lecteurs, des auditeurs, etc. Et c'est ce dont on va discuter dans cette troisième partie d'émission, donc avec les journaux et les radios qu'il y a ici autour de cette table. Je sais pas qui voudrait réagir pour commencer.
Pardon, je sais que je parle beaucoup trop, mais juste une toute petite réaction quant à l'expression « ascétisme protestant ». Je me permets de relativiser un peu l'expression. Merci. La dépendance, contrairement à la soumission, se caractérise par le fait que la dépendance, on la regarde dans les yeux. Et on lui dit « oui, je suis dépendant de toi, mais tu ne m'auras pas. Je dirai ce que j'ai à dire, de toute façon, tandis que la soumission fait baisser les yeux ». Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Mais c'est très intéressant, mais est-ce que tu as un exemple concret par rapport à ça d'une dépendance que tu as regardée dans les yeux, je ne sais pas, avec un élu local un jour?
François Brotte, je t'embrasse. J'ai cité 2 anciens maires décédés que j'ai beaucoup aimés personnellement. Hein. On était proches, et voilà, indépendamment de toute collusion politique, hein, simplement personnellement. Et il en est de même de François Brotte, qui est aujourd'hui, grâce à François Hollande, à la tête d'un grand consortium énergétique français, et qui était maire de Crolles, et qui nous a financés assez généreusement.
Voilà. Donc vous touchez des subventions, du coup, à la fois de la communauté de communes.
Ce que je veux dire, c'est que par là, on a eu des pressions, on a eu des critiques, on a eu des remontrances et des remontages de bretelles autant qu'il en faut, des gens et des élus et du pouvoir duquel nous sommes dépendants.
Mais ça n'est pas.
Et quand ils nous le font remarquer, nous les regardons en face et nous leur disons dans les yeux : oui, nous sommes dépendants de vous financièrement, mais nous dirons ce que nous avons à dire en toute liberté. Et comme ça, la relation est saine.
Tu me disais à l'instant, pendant la pause, que ils vous ont supprimé 10 000 euros par an de subventions pour les donner à quelqu'un d'autre.
Et le mec qui balance du off. Oui, oui.
Non, mais l'important, c'est pas le montant, c'est de dire que vous avez perdu un certain montant et qui a été mis dans un autre média.
Non, parce qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à la municipalité grenobloise, ce sont des choix budgétaires. Et des choix budgétaires, moi, quand je passe sur mon autoroute préférée, l'A41, où je vois qu'on construit maintenant tous les 100 mètres une nouvelle bretelle d'autoroute pour la modeste somme de 82 millions d'euros, c'est la participation de la communauté de communes. Hein. Le coût global est bien plus élevé. Et que pour des petites structures culturelles et associatives comme la nôtre, on nous mégote 5 à 10 000 euros annuels, je me dis qu'il y a des proportions qui sont à revoir, quoi, c'est tout.
Et alors, au postillon ou au crieur, qu'est-ce que vous pensez de ces questions par rapport à la dépendance aux subventions, à la publicité ?
Bah nous, sur la dépendance aux subventions, donc nous, on est beaucoup financé par les subventions. En fait, nous, on ne touche pas de subventions locales, ni de la mairie, ni de la métro, ni du département, ni de la région. Nous, on est financé par le fonds de soutien aux médias de proximité.
Qui existe depuis 2 ans, c'est ça ?
Depuis 2015, en fait. C'est un fonds qui a été créé après, c'est dans toutes les débats qu'il y a eu après les attentats de Charlie Hebdo, en fait, de réfléchir à comment mieux financer la presse et notamment les petits médias. Donc c'est un fonds du ministère de la Culture, et donc nous on est financé à ce titre-là. Donc il y a un dossier de subvention à déposer tous les ans. Et puis on est financé par les ventes du journal à prix libre, on est financé par les abonnements au journal, et puis on effectue aussi des prestations notamment pour d'autres associations du quartier. On va un peu à la pêche à trouver des sous à droite à gauche. C'est jamais très simple.
Et j'imagine qu'en tant que journal de quartier, vous avez quand même pas mal de bénévoles qui viennent prêter la main.
Oui, et puis à l'inverse, en tant que journal de quartier, on sait très bien qu'on ne peut pas autofinancer le journal par les ventes. Voilà, la pub, ça ne nous servirait strictement à rien parce qu'on gagnerait 20 euros par an peut-être à tout casser. On galère plus à trouver d'autres sources de financement.
Du coup, vous n'êtes pas salarié vous...
Si, moi je suis salarié. Je fais partie de ceux qu'on a pu pérenniser le poste en contrat aidé. Donc moi j'ai été 2 ans en contrat aidé et maintenant on a pu pérenniser mon poste. On a une visibilité à 6 mois à peu près. On verra après.
Ça reste très précaire encore.
Ça reste précaire, mais bon, après, c'est le lot, je pense, de tout petit média, en fait. On est un peu dans le même, tous dans le même cas, en fait. Ouais. Là, l'essentiel, c'est que déjà que les ventes puissent couvrir les impressions, ce qui est presque le cas, pas tout à fait.
Et Vincent, le postillon, il paraît qu'il n'y a que les ventes qui vous intéressent. Ouais. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein,
Non, mais c'est vrai.
Hein. Je ne fais que citer. Hein.
Donc, on est financé essentiellement par nos ventes et les abonnements. Et jusqu'à l'automne dernier, on avait 2 contrats aidés. Maintenant, on n'a plus rien. Et en fait, on a 2 salariés à mi-temps. Pareil, on a demandé, on ne sait pas encore si on va l'avoir, le fonds de soutien de proximité sociale. Quoi, notre nombre de ventes, à peu près, là, depuis 2-3 ans, ça fait qu'on rembourse l'impression, tous nos frais de locaux et compagnie. Et puis, on peut payer une personne, mais pas 2. Quoi. Du coup, si on a ce fonds, sûrement, on gardera 2 salariés. Toutes les premières années, il n'y avait que des bénévoles. Et puis il y a toujours pas mal de gens qui s'investissent bénévolement.
On va faire une petite digression qui n'en est pas vraiment une. On va parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On les soutient, personnellement je les soutiens en tout cas, de ce choix de faire un aéroport international, d'un combat qui a duré plus de 50 ans et actuellement d'une expulsion menée de main de maître par plus de 2500 gendarmes mobiles avec des blindés et des pelleteuses. Il y a déjà eu plusieurs blessés, plusieurs arrestations, une quinzaine de bâtiments détruits, des fermes, des squats. À la ZAD, il y a Radio Klaxon, qui est une radio pirate, qui a piraté les ondes de Radio Vinci, donc le 107.7, qui est la radio de proximité, la radio de terrain, en fait, où les occupants sur le terrain ont des radios avec eux pour se tenir au courant des mouvements stratégiques. Et donc, ils ont eu un problème de saturation sur Internet de leur flux. Et il y a eu des copains de Radio Parleur et les copains d'Indie Media Grenoble qui les ont aidés à faire un miroir sur Internet pour que le serveur ne soit pas saturé, en fait. Donc les copains d'Indie Media Grenoble auraient aimé être ici, mais ils étaient occupés ailleurs, donc on les salue quand même. Par rapport à la ZAD, il y a aussi des problèmes d'indépendance de la presse et de présence des journalistes sur le terrain, où depuis 2 jours, le matin, les journalistes ne peuvent pas rentrer, en fait. Il y a des cordons de CRS, gendarmes mobiles, pour être précis, qui les empêchent de passer. Et il y a aussi un petit communiqué du ministère de l'Intérieur à l'adresse de ces mêmes journalistes que Pierre va nous lire.
Ouais, je précise juste avant ça qu'au moment où tu parles, Thomas, nous sommes le 10 avril, puisque certains de nos auditeurs nous écouteront en différé.
Donc les expulsions ont commencé hier.
Donc les événements, si vous nous écoutez à la fin du mois d'avril, évidemment, ils auront bien évolué d'ici là. Simplement, je voulais vous donner lecture de l'extrait de ce communiqué du ministère de l'Intérieur paru hier, le 9 avril. Si vous avez envie de réagir, je pense que ça pourrait être intéressant avant de conclure cette émission. Pour la sécurité de tous, le ministère de l'Intérieur appelle les équipes de reporters présentes sur place à la responsabilité en veillant à ne pas se mettre en danger inutilement et à ne pas gêner les manœuvres opérées par la gendarmerie nationale. Les journalistes sont invités à se rapprocher de la préfecture de Loire-Atlantique qui met à leur disposition un espace presse. La gendarmerie nationale mettra à disposition des rédactions, des photos et vidéos de l'opération libre de droit. Les photos et les vidéos, bien sûr, hein, pas l'opération. Il y a beaucoup de choses qui sont une affaire de choix et la qualité des médias, qu'ils soient libres ou pas d'ailleurs, c'est aussi une affaire de choix. Fred,
ouais. Je voulais réagir là sur ce que met à disposition la gendarmerie en termes de médias libres de droit. Ça veut dire qu'on a le droit de les reprendre et de les réutiliser et d'en faire ce qu'on veut derrière.
Ouais. Merci à vous toutes et tous d'être venus autour de cette table. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'il y avait autour de cette table Vincent Martin pour Alpela, Benjamin Bultel pour le Crieur de la Villeneuve, Vincent Perret pour le Postillon, Muriel Baudouin pour Place Grenet, Pedro Olivas de Radio Campus Grenoble, Sylvain Rodinson de Radio Grésivaudan, Hilda Civit de Radio Dragon et Clémentine Métayer du Festival Écoute. On vous rappelle les dates du Festival Écoute, c'est du 19 au 22 avril ici même à Grenoble, donc n'hésitez pas à aller voir en ligne un petit peu la programmation. Voilà, c'était l'émission Presse Libérée, on était très contents de venir ici, on remercie chaleureusement Campus Grenoble.
Joyeux
anniversaire, 25 ans, c'est vrai, il faut le rappeler. Et merci spécialement à Chris et à Vincent qui se sont chargés de toute la technique. Et il y avait du boulot. Voilà, je crois que j'oublie rien à part si de quand même de saluer tous nos auditeurs. Donc on va commencer par les radios alpines, Couleur Chartreuse, Grésivaudan, Dragon, Radio Alpine Meilleur à Embrun, Radio Zinzine aussi du côté des Alpes du Sud, à Marseille Radio Galère, en Corse Nebbia Campus Corté, à Bordeaux La Clé des Ondes, à Tours Radio Béton, à Paris Fréquence Paris Pluriel et enfin à Mulhouse Radio MNE. Salut à vous depuis tous ces territoires et depuis toutes ces radios. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro de Presse Libérée.
Et vive la Presse Libérée.
À bientôt.
Vous voulez quoi ?
Me battre. Me battre. Par celle des femmes.